un nouveau podcast de Perdusa pour discuter de la fin de la saison officielle de la télé américaine, des nouvelles séries de cet été et des nouvelles de l'actualité. J'ai autour de moi Delphine Fertis, notre chef bien-aimé.
Salut.
Et Drum.
Bonjour.
Un podcast réduit puisque nous ne sommes que trois aujourd'hui. Commençons tout de suite par les quelques season finalistes dont on n'avait pas parlé la dernière fois puisqu'ils n'avaient pas été diffusés. Prenons par exemple Lost et son double dernier épisode qui apparemment a réconcilié certains d'entre vous avec la série ou peut-être...
Réconcilié, on n'ira peut-être pas jusque là, disons que c'était moins pire que d'habitude. C'était même plutôt agréable à regarder, donc agréable à suivre, ça changeait pour du Lost.
Bon, c'était bien avec une révélation qui relance un peu l'intérêt dans la série.
Un petit peu, oui, parce qu'on sait très bien que de toute façon, ils ne vont sûrement pas la réutiliser, ou alors...
Est-ce que vous pensez que la structure de la série va être modifiée et qu'à partir des saisons prochaines, on va avoir droit que à des flash-forward ou que...
Non, ça m'étonnerait
qu'on va rester sur les flashbacks hyper intéressants de la vie sexuelle de Sun.
Il faut pas attendre trop de Lost, je veux dire, voilà, c'est, c'est Lost. Donc non, on va sûrement retrouver le format habituel, des flashbacks tout pourris. Et de temps en temps, je pense que sur des épisodes un peu importants, ils nous referont le coup du flash forward et puis...
Et je pense que ça dépend aussi du personnage. Il y a beaucoup de... On sait tout maintenant de Jack.
Oui.
On n'a pas besoin d'un flashback. Peut-être que le flash forward sera beaucoup plus utile sur Jack que sur Claire. Sachant que Claire n'a le droit qu'à un ou deux flashbacks. Oui. Donc je pense que ça dépendra aussi du personnage. Et surtout, moi, ce qui m'intriguait dans le flash forward, c'est pas le fait qu'ils ont réussi à partir de l'île, mais qui a réussi à partir de l'île?
Oui, qui, comment?
Parce que là, on sait juste que
prix,
hein. Jack et Kate sont partis, que Jack veut tout prix revenir. Est-ce que c'est parce qu'il a laissé le reste du monde là-bas, parce qu'il a déjà voulu les quitter? Il a eu l'occasion de partir avec Juliette.
Oui.
Et non, ça relance quelques questions qui sont assez intéressantes. Le seul problème que moi maintenant j'ai avec la série, c'est que ça va être long pour attendre les réponses. 3 saisons, 16 épisodes. C'est un peu du gros foutage de gueule.
C'est depuis le début, hein, de toute façon. Donc,
Ouais, mais le principe, c'est qu'ils expliquaient que maintenant qu'on sait quand la série va s'arrêter, on pourra mieux distiller nos réponses.
J'y crois pas une seule seconde.
Si, la fin de saison, quand même, il y a eu beaucoup de...
Ouf.
Les derniers épisodes avaient beaucoup plus de révélations que le premier batch d'épisodes qui se passait
il y a eu quelques réponses, mais beaucoup de questions posées à nouveau. Hein,
Beaucoup de nouvelles questions, voilà. Et surtout quand même un gros foutoir, parce que qui est ce nouveau chef invisible maintenant qu'on sait que l'île, cette île, elle existe, oui. Puisqu'ils sont capables de retourner à leur vie normale aux États-Unis. Cette île existe donc sur la planète. Qu'est-ce que c'est que cette île où il y a des forces magnétiques, où il y a des gens invisibles, où on peut revisiter son passé, où on peut... Enfin, c'est vraiment le foutoir le plus total. La fumée noire, on n'en parle plus. Enfin, ou des fois, ça revient juste comme ça.
Et la statue à 4 orteils.
Là encore, même si le retournement final de situation, moi, je n'avais pas compris du tout que c'était un flash-forward. Je n'avais même pas reconnu Kate. Il a fallu que j'entende sa voix, tout ça, Je me sentais tellement plus intelligent que la série quand j'ai vu le portable de Jack en disant « c'est un portable trop moderne, ils sont vraiment trop cons dans l'os, ils sont même pas capables de pas faire des anachronismes ». Bon, je me suis fait flouer un peu, ça c'était plutôt marrant, mais globalement, Lost, on sent que c'est vraiment, vraiment pas maîtrisé. Le gars qu'il y a dans le cercueil, je suis même pas sûr que les scénaristes savent qui c'est.
Oui, il y a peu de chances qu'ils le savent.
Oh non, je suis pas d'accord. Non, je pense qu'ils ont des réponses à donner, que les grandes trames sont bien définies.
Oh non, dans Lost, elles n'ont jamais été définies, elles le seront jamais, je pense. Jamais, ça se sent, quand on voit un épisode, on sait très bien, on sait pertinemment qu'ils ne savent pas où ils vont. Hein. Mais c'est, une fois qu'on a fait le deuil d'une histoire plausible dans Lost, enfin cohérente, hein, je peux pas parler de possibilité, non. Une fois qu'on a fait le deuil d'une histoire cohérente dans Lost, on peut regarder la série avec un œil...
Non, Lost, c'est pas 24. 24, parce que tu sens clairement que le script qu'ils ont eu cette semaine vient d'être écrit une heure avant et qu'ils savent ce qu'ils vont faire la semaine prochaine.
Oui, ça se voit plus dans 24, mais pour moi, c'est la même chose dans Lost. Hein.
Toujours est-il que cet épisode de Lost réussit quand même l'objectif d'un season finale, c'est-à-dire de donner envie aux gens de voir la suite. Est-ce que celui de Heroes, épisode pivot de la saison, puisque normalement les 21 épisodes ou les 22 épisodes précédents devaient mener à celui-là, est-ce qu'il vous a donné envie, c'est déjà satisfaction, est-ce qu'il vous a donné envie de regarder la saison prochaine de Heroes, qui aura un spin-off de 6 épisodes.
Spin-off, entre guillemets.
Un spin-off, ou en gros, histoire...
des histoires indépendantes.
Une annonce de NBC pour se faire un peu de pub, c'est le seul truc qui fonctionne un peu.
Voilà.
Alors, ce dernier épisode de Heroes...
Eh bien, il était vraiment raté, hein. Je crois qu'on peut le dire. C'était... je crois qu'on a rarement vu un season finale... aussi peu haletant, aussi peu intéressant. C'était mou. Le combat final qu'on attendait tous depuis le début et le...
Tout ça pour ça.
Le pire. Bah, à la limite, les affrontements précédents entre Peter et Sylar étaient mieux faits, mieux réalisés que celui de l'épisode.
À part celui avec chez Suresh, le premier affrontement...
Oh
non, quand il sauve la cheerleader...
On connaissait pas encore Sylar, donc c'était une espèce de force inconnue comme ça, on savait pas de quoi il était capable, donc c'est vrai que c'était quand même un peu plus angoissant que les trois coups de poing que Peter met à Sylar à la fin.
Non, moi j'ai pas aimé le premier affrontement déjà. Moi, le seul affrontement que j'ai aimé entre Sylar et Peter, c'était...
Chez Suresh.
C'est sur Ash.
Ouais. Après,
le dernier épisode.
Non, il était pathétique. Il était... Ça fait réévaluer tout l'intérêt de la série. Ils se sont vraiment ratés là, parce que ça aurait pas été si compliqué que ça de nous donner un vrai bon combat avec des vrais enjeux, avec des personnages qui utilisent leur pouvoir.
Ce qui était promis depuis le début de la série.
Voilà.
La saison a enfin fait finalement donne l'image d'un pétard mouillé, c'est-à-dire qu'on nous a laissé espérer tout un tas de choses. C'était un peu le cas aussi au début de la première moitié de la saison où il y avait Save the Cheerleader, Save the World, et finalement quand Peter sauve Claire, là encore il y avait un goût d'inachevé,
parce qu'on ne sait pas pourquoi.
Oui, finalement, parce que finalement, en plus, Sylar, visiblement, est invincible. Donc, pourquoi est-ce qu'il avait besoin des pouvoirs de Claire, hein, puisque finalement, il s'en sort très bien. Enfin,
ils en parlent dans l'épisode 5 ans après, où il avait besoin des pouvoirs de Claire dans la scène finale.
Pourquoi faire ?
Je ne sais plus très bien. Pourquoi
parce que, bon, globalement, il résiste un peu à tout, donc...
Et puis avec cet épisode, on perd vraiment confiance dans la faculté des scénaristes à utiliser le monde des super-héros. Oui. Enfin, là, c'est. On nous explique que Sylar est vraiment invincible, horrible, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Le japonais dont j'ai oublié le nom. Pof, il y a un coup d'épée, c'est fini.
Comment tu peux l'oublier?
Hero.
Hero.
Ça représente toute la subtilité de la série.
Oui, voilà.
Le héros qui s'appelle Hero.
Voilà.
Et puis c'est alors Sylar qui n'en finit pas de mourir, enfin qui est pas mort, qui va revenir en deuxième saison parce que
ça c'est pas grave. Enfin je veux dire c'est fait partie des traditions des comic books, le méchant meurt rarement et les héros de la même façon meurent rarement aussi hein. Ou pour mieux revenir ensuite. Donc ça c'est pas trop grave encore. Mais le fait par exemple que personne n'ait pensé à lui couper la tête alors qu'il était gisant.
Et Peter, il n'y avait pas une autre solution que sacrifier le frère qui vole, etc.
Il y avait 100 000 solutions, mais pas
juste
ça.
Juste tirer une balle dans la tête et c'était réglé.
Mais pour revenir sur le fait que c'est une tradition des comic books, que les héros ne meurent pas et que les méchants ne meurent pas, je veux bien, pour des comic books qui sont là depuis... Ils ont une vocation de vraiment durer sur la longueur.
Ça a 30 ans.
Heroes, c'est censé durer, on va dire 5, 6, peut-être 7 ans.
Oui.
Non, je préfère que.
Oui, on aurait préféré que ça commence doucement.
Parce que le problème dans les comic books, si tu prends un méchant qui est tué et qui revient, c'est parce qu'on n'a jamais trouvé quelqu'un d'aussi charismatique derrière.
Oui, alors que là, on peut
alors,
pas
si
dire que
Sylar. Si tu dis dans une série, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un de plus charismatique que Sylar comme méchant. Oui, non, j'ai pas vraiment envie de revenir. Quoi.
Surtout qu'ils introduisent un nouveau gros méchant dans la saison finale.
Oui, le Boogeyman.
Voilà, le Boogeyman. Le Attention, gros c'est Sauron hein, qui arrive à la voir quand elle essaie de le contacter. Donc...
Et la scène finale avec Hiro au temps des samouraïs, oh. Est-ce que ça vous a donné envie de revenir?
Non, ça m'a juste donné envie de tout arrêter.
La seule intrigue qui m'a plu dans Heroes, c'est celle avec les parents de... qui a eu une génération avant, où c'est peut-être passé quelque chose d'intéressant.
Oui.
Peut-être.
Peut-être, mais alors là... Non, puis même tout le discours de « c'est l'amour qui va sauver le monde », c'est la compassion, c'est la compassion qui va permettre de sauver le monde, Peter.
J'avais oublié cette scène ridicule avec le Black dans la chaise, là.
Insupportable. Avec Shaft. Insupportable. Shaft, c'était le mec de Shaft.
Sharon Price, pas
c'est
Shaft.
Pas vrai.
Si, c'est ça.
Oh mon Dieu, je l'avais pas reconnu. Mais oui, non, c'était dégoulinant de bons sentiments, c'était pathétique.
Et moi, j'ai un gros problème avec les acteurs, je trouve qu'ils jouent de plus en plus mal.
Oh non.
Adrien Pasdar, c'est terrible, quoi. Il fait aucun effort. Le rôle en demande aucun, certes.
Oui,
mais
voilà. C'est-à-dire que le rôle de super-héros à la base, c'est pas un rôle où tu peux vraiment exprimer tes talents d'acteur, je pense.
Bah là-dessus, ils ont tous ce talent de Greg Cronenberg pour moi.
Oh non!
Ah si, il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah oh, celui-là, il joue super bien.
Et Greg Cronenberg s'en sort plutôt bien parce que le gars qui joue Sylar est vraiment mauvais. Shuresh, ou je sais pas quoi.
Ah oui, non, lui, il est mauvais aussi. Non, mais je veux dire,
il y a Claire
pas...
qui s'en sort correctement.
Claire s'en sort
son père.
Bien.
Son père, parce qu'il est dans Dynasty aussi. Ouais. Donc ça a dû beaucoup l'aider. Mais...
Non, mais les pauvres, ils n'ont pas des textes non plus, des situations où ils peuvent vraiment s'exprimer quoi, en tant qu'acteur. C'est assez plat, quoi.
Une série dont on ne va pas se poser la question si on va la regarder l'année prochaine ou pas, c'est Véronica Mars. Qu'avez-vous pensé de son dernier épisode, son ultime épisode?
C'était triste.
C'était triste, c'était vachement bien.
Bah, c'était très dommage qu'on ait dû avoir 3 épisodes un peu chiant.
Ouais, ça fait regretter. On se demande pourquoi on n'a pas eu...
Parce que c'était censé être l'arc, le dernier arc final. Et en plus, c'est un arc qui mettait vraiment en scène tous les personnages.
Tous les personnages.
Et il était bien centré sur Véronica. Et c'était bien.
Non, mais moi, j'aime que ça se termine sur une note un peu pessimiste. J'ai vraiment beaucoup aimé.
Ouais, parce que moi, je voyais pas une fin où tout le monde est content et on se prend tous dans les bras et on se dit...
Non, c'est pas ça, Neptune.
C'est pas ça, Véronica Mars.
Ouais.
Mais moi, j'étais relativement insatisfait par cet épisode parce que ça faisait quand même... une espèce de décalque de ce qui avait été bien dans la première saison. Ça faisait le clash des tritons, le retour. Enfin, c'était un épisode relativement sympathique, mais qui rachète pas la série, ou qui me fait pas regretter, qui rachète pas la saison, qui me fait pas regretter cette troisième saison. Enfin, je trouve que c'était un épisode du niveau de la saison, c'est-à-dire pas vraiment mauvais, pas vraiment bon. J'avais vraiment l'impression que Rob Thomas n'avait plus rien à dire depuis la deuxième saison.
J'ai pas eu cette impression-là. Alors, j'ai eu cette impression-là sur une grande partie de la troisième saison, effectivement, où j'ai eu l'impression que Rob Thomas n'avait plus rien à dire et qu'il avait fait trop de compromis avec la CW et que sa série était devenue insipide. Mais sur les derniers épisodes, j'ai retrouvé Véronica Mars des deux premières saisons. Je l'ai vraiment retrouvée. J'ai retrouvé... l'esprit, les répliques, l'humour...
La colère,
oui.
C'était un des facteurs qui manquait dans la saison, la saison 3.
Alors, effectivement, ça ressemble à la saison 2.
Il n'a pas réussi à faire évoluer Véronica Mars. Pour qu'on re-aime Véronica, il suffit de reprendre le personnage qu'elle était en première saison et d'effacer ce qui s'est fait en saison 3. Il a vraiment raté l'évolution de Véronica. Le passage à la fac était désastreux.
Ouais.
Et ce dernier épisode... qui, s'il est agréable, me laisse relativement insatisfait.
Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais...
Bon, allez, on n'a fait que dire quasiment du mal. En tout cas, pas là. Il y a quand même une série dont on n'a pas tant parlé que ça sur Perdusa, même s'il y avait quand même des reviews magnifiques de notre cher chef. C'est The Shield qui était revenu en 10e saison. The Shield.
6e saison.
6e saison, voilà. J'allais un peu trop vite parce que je voulais parler des 10 épisodes, des saisons courtes. Hein, la 5e et la 6e font 11 et 10 épisodes.
Oui.
Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée pour toutes les séries de faire juste un peu d'épisodes, mais des bons épisodes?
Ce serait une très bonne idée, je pense. Brothers and Sisters et compagnie.
Pour Véronica Mars, par exemple.
Desperate Housewives. Véronica Mars aurait bénéficié de n'avoir que 10 épisodes par saison. Mais pour revenir à The Shield, une sixième saison qui a été, comme les précédentes, excellente. Donc, une des rares séries qui arrive à tenir sur la longueur. Bon, une petite longueur, effectivement, puisqu'il n'y a que 10-12 épisodes par saison. Hein, mais qui quand même arrive à...
Qui maintient son niveau, voire qui quasiment s'améliore. Oui. Parce que... Il y a une telle maîtrise des intrigues depuis le début, la réutilisation des intrigues du début, leur retour ne fait pas du tout réchauffer, ou comment faire revenir les gens, on va reparler des anciens méchants, parce que non, ça s'imbrique totalement dans ce qui est écrit, c'est assez extraordinaire, c'est 10 épisodes, il n'y en a pas un qui est plus faible que l'autre, c'est vraiment 10 chapitres d'une histoire qui... pour le coup, a vraiment l'air d'avoir été pensée et écrite bien avant.
C'est là qu'on voit la différence entre une série où les storylines sont réfléchies et une série où les storylines ne sont pas réfléchies. la cohérence, l'ensemble de la saison.
La mort de Lem n'est pas du tout un événement pour gagner de l'audience ou quoi que ce soit, puisque toute cette saison se construit autour de cette mort. Comment gérer leur culpabilité, le deuil, le remplacement. Ouais. C'est extraordinaire. C'est l'une des... Ouais.
Et j'attends la 7e saison avec encore plus d'impatience que j'attendais la 6e. Parce qu'on va avoir l'occasion de, je pense, enfin, j'espère en tout cas, voir Vic Mackey prendre conscience de tout ce qu'il a fait depuis le début et de prendre ses responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on...
Tu penses que c'est ça l'objet de la dernière scène où justement il ne va pas se défendre
J'espère que... parce que Vic Mackey depuis le début donc connaît des situations qu'on pense impossibles, dans desquelles il ne pourra pas s'en sortir depuis le début. Il a tout le monde à dos, y compris les gangs et son administration. Donc à chaque fois on pense que c'est fini, là ça y est... il va finir par rendre son badge, il va être viré et on n'en parlera plus. Bon, il arrive toujours à s'en sortir et sans jamais se remettre en question. Donc moi, ce que j'attends vraiment dans cette 7e saison, c'est une remise en question de ses méthodes et de la violence qu'il utilise pour faire régner une paix provisoire, puisque sans lui, on sait très bien que la paix ne pourra pas durer très longtemps. Donc, j'attends vraiment de la 7e saison, la saison de Vic et de sa remise en question. Alors, je sais pas si on la verra, je sais pas ce qu'il compte faire, mais...
C'est marrant ce principe de remise en question des personnages assez... assez gris, enfin, c'est à la morale un peu ambiguë.
Ben, j'attends pas qu'il trouve la rédemption, c'est pas du tout ça. J'attends juste qu'il prenne la responsabilité de ses actes, ce qu'il n'a jamais fait depuis le début. C'est-à-dire que... Quand tu l'écoutes, tous les actes, tous les crimes qu'il a commis, tout ce qu'il a fait, il en a fait des horreurs. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait soit pour sa famille, soit pour les flics, soit pour ses amis, soit pour Farmington, le quartier où il travaille. Mais il s'est jamais rendu compte qu'il ne le faisait que pour lui.
Comme Tony Soprano.
Oui, je pense, oui.
Mais pourquoi, pourquoi, d'après toi, il devrait se remettre en question si pour lui, dans sa tête, c'est justifié? Ça, c'est ton désir de toi en tant que téléspectatrice.
Ah oui, complètement, c'est un désir.
Est-ce que c'est légitime?
Mais dans le déroulement des 6 saisons, c'est légitime, puisque, comme le disait Delphine, il en arrive à une telle situation où il va plus réussir à maintenir l'illusion qu'il le fait pour sa famille, puisque sa famille maintenant va être en danger, Farmington, tout va s'écrouler. Enfin, il y a un moment donné, il va être obligé de... La situation autour de lui va le forcer, à étudier...
À se remettre en cause. C'est pas une question de je cherche une moralité, parce que je ne cherche pas à ce qu'il soit puni. Condamné, ou c'est pas du tout ça. Ce que je veux vraiment, c'est voir dans son regard quelque chose qui me dirait j'ai merdé et tout ça, tout ce qui est arrivé par ma faute.
Je me suis quand même menti.
C'est une forme,
c'est
une forme de punition, hein, c'est vrai, je le reconnais.
Admettre sa culpabilité, c'est...
Alors, ça concerne peut-être que moi, parce que peut-être que d'autres spectateurs n'ont pas du tout envie de voir Vic dans cette situation, mais moi j'aurais vraiment envie de le voir.
Parce que moi, enfin, bon, je regarde pas The Shield, mais je regarde The Sopranos, et c'est ce qui m'étonnait. Il y avait beaucoup de critiques américains ou de personnes qui disaient que bon, la dernière saison, ce sera l'occasion pour Tony d'affronter les. De se confronter au crime, ouais. Ce qu'il a commis. Et non, pour moi, ça. Il n'y a pas vraiment de raison. Si dans sa tête, tout est justifié pour lui.
C'est différent. Enfin, moi, je suis en train de prendre les Sopranos en cours. Enfin, j'ai regardé une saison et demie. Les personnages de Tony Soprano et de Vic Mackey sont pas dans la même
configuration.
Tony Soprano, c'est un gangster, il le sait. Il le sait, il fait partie de... C'est un gangster. Vic Mackey, c'est un flic à la base.
Qui utilise son...
La moitié ou les trois quarts de ses actions ont des retombées plutôt positives pour la société, pour le quartier dans lequel il est. Il utilise des méthodes contestables pour le résultat. C'est la fin justifie les moyens. Dans Les Sopranos, c'est pas la fin justifie les moyens, puisqu'ils font partie du crime organisé.
C'est un peu leur façon de vivre.
C'est du racket. Alors pour l'instant, j'ai vu qu'une saison et demie, donc je peux pas te dire. Mais il y aurait moins de raisons que Tony Soprano, qui vit, c'est sa famille, c'est sa vie, c'est sa culture. Il y a moins de raisons qu'il se remette en cause que Vic Mackey, qui arrive à un stade de sa vie où tout s'effondre autour de lui. Hein, tout ce qu'il a fait, finalement, n'aura servi quasiment à rien.
Oui. Mais là, c'est la même chose. Même si Tony est un mafieux, mm-hmm. tout ce qu'il fait, c'est pour protéger sa famille de... Mafioso et sa famille à lui. Dans la dernière saison,
parce qu'il a jamais connu autre chose. Vic, il aurait pu choisir.
Mais Vic prend cette excuse, hein, et prend l'excuse de sa famille et de ses amis flics pour agir comme il le fait. Mais ce n'est qu'une excuse, parce que dans le fond, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour lui, pour sa carrière, pour s'imposer, pour imposer ses règles. Parce qu'effectivement, il est plutôt doué dans ce qu'il fait, dans sa façon de gérer les gangs. Il n'y a personne d'autre à Farmington qui est capable de gérer la violence des gangs comme il le fait. Mais il faut qu'il arrête de se cacher derrière l'excuse « je le fais pour ma famille, pour la protéger », parce que tout ce qu'il a fait n'a conduit qu'à la destruction de sa famille. Et à présent que sa fille est grande, elle a 16 ans, Cassidy, ouais. Elle se rend compte de ce qu'il a fait et elle commence... Elle lui dit, en fait, dans un épisode, « Tout ce que tu as fait, je le sais. » Et son regard envers son père change. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il allait sûrement essayer de... Enfin, il allait sûrement essayer de changer. Hein. Sa famille, ça a toujours été tout pour lui. Hein. Et il est toujours caché derrière le temple de sa famille pour agir comme il l'a fait. Hein. Mais à partir du moment où sa grande-fille se rend compte que... Ben, ce qu'il a fait, ce n'est pas forcément pour sa famille, hein, mais pour lui, hein, parce qu'au fond, ça ne sert que lui. Hein. J'espère qu'il va vraiment en prendre conscience. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire. Mais,
Non, c'est...
Faut arrêter de se cacher derrière des excuses. Quoi. Soit il se rend compte qu'il n'est pas fait pour être flic, et à ce moment-là... Ben,
Mais tu peux vivre une vie en te mentant à toi-même.
Ah oui, non, mais c'est certain. Mais ça m'embêterait que vraiment il s'en sorte encore en 7e saison et que ça se termine sur Vic Mackey plus fort que tout le monde. Même si j'adore le voir plus fort que tout le monde, c'est ce qui fait aussi le charme de la série. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Vic s'en sortira toujours. Et c'est assez agréable, c'est assez jouissif, c'est vrai, de le voir plus fort. Mais quand même... Je sais pas pourquoi, hein, ça doit être un vieux Roland judéo-chrétien qui veut que les gens payent pour leurs crimes. Mais
peut-être qu'on est conditionné à ça. Que pour une fin de série, c'est censé avoir une conclusion,
Ouais.
Bon. Alors, parlons de David Kelley. Fait-il Boston Legal pour Michelle Pfeiffer? Fait-il Boston Legal pour le public? Fait-il Boston Legal juste pour lui? En tout cas, il y a eu... le season finale de Boston Legal il n'y a pas très longtemps non plus, parlons-en 5 minutes et parlons finalement de cette troisième saison, une saison risquée puisque dans l'univers de Kelley, le chiffre 3 est un chiffre maudit puisqu'en général c'est là où ces séries deviennent catastrophiques. Pensons à Ally McBeal, pensons à...
The Practice saison 3 est encore bien.
Ouais, ça,
ça dégénère à partir de la 4.
Ouais.
Oh, déjà la saison 3, le truc
du Dunn, c'était le premier crime bizarre de...
Ouais.
de The Practice, ça passe encore. Ouais. Moi, la saison 3, je regarde un bon souvenir.
Bon, voilà, en tout cas, la saison 3, c'était récemment, ouais, c'était Alias.
Enfin, même, c'était Chicago, série, il a quitté la série après deux saisons, il ne savait plus quoi faire.
Bref, on avait été inquiets par cette saison de Boston Eagle qui finalement s'en sort plutôt très correctement, plutôt très avec bien. Un season finale qui était
fabuleux.
Qui était très bien, mais surtout, le truc qui est vraiment étrange dans la série, c'est que quand on regarde le premier épisode, c'était Défi Bonas et Alan Shore et
Danny Crane.
Et là, ça se transforme en une galerie de personnages totalement
décalés, loufoques.
Clarisse, Clarence, Enz, des sabots canins. Des... Et pourtant, ça n'a pas le côté agaçant d'Ali McBeal. Non. Pas encore, en tout cas.
Pas encore, oui.
Et pourtant, non, ça resterait. Ils ont trouvé encore le bon équilibre difficile à trouver entre, ouais, le côté loufoque et le côté.
Plus dramatique.
Ouais, non, c'était bien.
C'était très très bien.
Ce qui m'a beaucoup plu dans le season finale, c'est que Boston Eagle, c'est presque un Formula Show. Et c'était la bonne méthode pour terminer une saison d'un Formula Show, c'est-à-dire terminer par l'un des meilleurs épisodes de la saison. C'est un épisode très fort, un épisode centré sur Danny et sur Alan, avec une conclusion avec les deux. C'était vraiment, vraiment une belle, belle, belle saison et un beau dernier épisode.
Ouais.
Alors, en sera-t-il de même pour la quatrième saison? Il est tombé très récemment 2-3 nouvelles qui indiquent des bouleversements devant et derrière la caméra. D'abord, ce qui va être le plus visible, ce sont les départs de nombreux acteurs.
Julie Bowen
Marc Vallée,
René Aubergenois et Constance Zimmer.
Voilà. C'est-à-dire à peu près tous les
jeunes
et tous les personnages qui étaient à peu près normaux. Équilibrés et qui
normaux entre guillemets
qui n'étaient pas Shirley.
Voilà, ouais. Il reste plus que Shirley, donc un personnage qui a la tête sur les épaules.
Arrive en régulier dans la série Christian Clemenson.
Moi je l'aime.
John Cage numéro 2 quand il fait
non, moi je l'aime.
Ça me crispe, c'est terrible parce que je revois John Cage de la saison 4 et 5 et je me dis non,
il faut pas. Non.
Et puis il y a quand même le grand ami de Drum,
John LaRoquette.
Ouais.
Qui va arriver.
Et une fille qui joue dans Dirt.
Une blonde. Okay. Une jeune. Blonde, ouais.
Parce qu'il en faut.
Ouais, enfin, il n'était pas obligé non plus. Hein.
Et donc, derrière la caméra, apparemment, dans le pool des scénaristes.
Janet Leigh, la scénariste en chef de la série. Démissionné et remplacé par son numéro 2. Et ça, pour moi, ça m'inquiète plus que les départs d'acteurs. Les départs d'acteurs dans Boston Eagle, c'était super fréquent, c'était pas...
On était un peu habitués, hein, voilà. C'est vrai que...
Du premier épisode, il reste plus que Danny Crane et...
Alan Shore.
Bon, normalement, on va s'y faire. Surtout que c'était pas les personnages les plus utilisés de la série. Julie Bowen était...
Bon, depuis qu'elle était tombée enceinte, la pauvre...
Voilà. Marc Vallée et Renaud Bergenois... Et... T'es juste là pour être les gars sérieux qui avaient leur scène, de gars qui étaient étonnés de ce qui se passait. T'es choqué. Constance Zimmer était très bien, mais encore une fois, elle n'avait pas un rôle super, super développé. Non. Donc, ils vont pas trop nous manquer. C'est pas comme si Shirley partait. Maintenant, l'arrivée de John LaRoquette, c'est une bonne chose.
Ouais.
La promotion de Christian Clemenson, pourquoi pas. De toute façon, il était présent sur quasiment toutes les
saisons. Moi, je suis assez pour. J'aime bien son personnage, donc...
Et surtout, ça ne veut pas dire que le fait qu'il soit au générique, il va prendre encore une place plus importante.
Ah, oh, ça ne veut rien dire, ça.
Oui, parce que c'est David Kelley, en général, quand on arrive en générique, on disparaît 3 stars.
Voilà, c'est ça.
Donc, reste à savoir au bout de combien de temps il va se lasser de Christian Clemenson. Mais non, ça ne m'inquiète pas trop. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est quand on touche au scénariste. Parce que là encore, ils avaient trouvé un équilibre super difficile à atteindre. Et même niveau qualité, Boston Eagle a vachement, vachement, vachement évolué par rapport aux premiers épisodes. Ils n'étaient pas super, super géniaux. Là, on sent que David Kelley est derrière, mais on sent qu'il n'est vraiment pas tout seul. David Kelley tout seul, c'est The Wedding Bells. David Kelley tout seul, c'est Girls Club. David Kelley tout seul, c'est The Brotherhood of Poland. Donc là, on sentait vraiment qu'il avait trouvé 4-3 avec Bill Delia et Janet Leigh. Ils avaient trouvé un bon équilibre. Et touché, il y a... Ah ça m'inquiète un peu.
Donc on aura quand même Boston Eagle à regarder à la rentrée, ce qui est plutôt positif. On aura encore peut-être Friday Night Lights, puisqu'on a appris que Kevin Riley, qui était le président du département divertissement de NBC avait été remercié pour être remplacé par un producteur de série télé, Ben Silverman, dont les crédits sont
Ugly Betty,
Ugly Betty, les The Tudors,
Office. The Office quand même,
The Office et
The Biggest Loser,
The Biggest Loser,
30 Days.
C'est ça, c'est quand même l'une des nouvelles les plus inquiétantes pour la rentrée prochaine.
Bah oui, pour Friday Night Lights, parce que
pour Friday Night Lights, pour NBC, NBC de façon générale.
Parce que Kevin Reilly avait quand même mis sa patte. C'était ses émissions de reality TV, c'était The Apprentice, Grease. C'était très limité, c'était très cantonné à la 15h du dimanche. Ça n'a pas eu le succès escompté. Là, la première, l'un des premiers choix de Ben Silverman, c'est d'essayer de trouver l'équivalent de Dancing with the Stars, d'American Idol ou de Are You Smarter Than a 50
Trailer sur NBC.
Et il voudrait signer.
Ils essayent de signer avec le gars
Mike
de la
Darnell,
Fox. Le gars qui a apporté à la Fox Joe le millionnaire, les plus gros méchants animaux du monde.
Et l'émission Swan, avec
L'île de la Tentation et ce genre de choses.
Elle est tombée à l'eau.
Mais c'était NBC qui l'avait
fait. Mais ça, c'était sous Riley quand même.
Ah oui, quand même.
Mais c'était un truc limité.
Ouais.
C'était pas The Swan. C'était pas de la Real TV qui répulse.
Non, ça fait un peu peur pour NBC, hein, c'est vrai.
Non, les crédits de Ben Silverman font un peu peur quand même. Et puis, il est vendu comme le gars qui a produit The Office, ce qui fait doucement sourire, puisque la personne qui a choisi The Office, qui a choisi de mettre The Office à l'antenne, qui a choisi de conserver The Office, c'est alors qu'au bout de 6 épisodes, il y avait une audience négative, c'est quand même Kevin Reilly.
Ouais.
C'est assez étrange, hein. Je pense qu'il y a vraiment un gros, il y avait un gros souci entre Jeff Zucker et Kevin Reilly. Jeff Zucker lui a pas lâché la bride que jusqu'à la fin de l'année dernière. Ouais. Et la fin de l'année dernière, même si les résultats de NBC étaient, d'un point de vue des audiences, assez désastreux, il y avait quand même, on parlait quand même beaucoup de Kevin Reilly dans les... dans les articles, les journalistes américains parlaient beaucoup de lui et en positif, puisqu'il a lancé, c'est ça, Friday Night Lights, 30 Rock. On parlait de lui comme du gars qui incarnait le renouveau de NBC. Ce qu'on n'a pas dit de Jeff Zucker, et je pense que c'est quand même une espèce d'histoire d'ego qui est liée à ça. Aussi une histoire d'argent, parce qu'NBC en quatrième position a dû beaucoup jouer.
Mais c'est vrai que quand on regarde les plus gros flops de Kevin Reilly comparé aux plus gros flops de Jeff Zucker, c'est vrai que c'est pas Hawaii et Lax, Studio 60 et Kidnapped.
Ouais.
Il y avait derrière, même si c'était pas super génial, il y avait derrière une volonté de changement, une volonté de d'innovation.
Kidnapped, c'est vraiment une série qui vaut le coup d'être découverte. Il y a les 13 épisodes qui sont sortis en DVD il y a pas longtemps. La série est assez fabuleuse. C'est assez extraordinaire. C'est très maîtrisé, tout conduit justement à l'épisode final, tout est prévu, il y a une conclusion, le méchant, enfin il y avait le méchant,
regardez.
Et bien en tout cas, c'est les gens qui sont derrière le kidnapping, c'était prévu dès le début, enfin ça se sent vraiment, Kidnap c'était vraiment une très très bonne série, c'est dommage qu'elle n'ait pas eu l'audience qu'elle méritait, mais la saison de NBC d'un point de vue qualitatif, c'était Kevin Reilly et c'était quand même ce qu'il y avait de mieux sur les networks. Là, avec Ben Silverman, je pense que NBC n'est pas prêt de...
Et qu'est-ce qu'ils font comme nouvelle série à la rentrée, alors ?
Ils gardent les projets de Kevin Reilly, Billy Coleman, Chuck, Life, The IT Crowd. Mais moi, ce qui m'inquiéterait le plus avec Ben Silverman, c'est que c'est pas quelqu'un... Pour moi, c'est pas quelqu'un de créatif, c'est pas quelqu'un qui développe des projets, c'est quelqu'un qui adapte des projets. Ugly Betty, c'est adapté d'une télé-novela.
Il a adapté Coupling.
Il a adapté Coupling.
Oui.
Là, il va adapter un deuxième télé-novela qui s'appelle Sans gros seins, il n'y a pas de paradis.
Oh mon Dieu.
C'est quelqu'un qui.
C'est pas un visionnaire.
Voilà, c'est pas un visionnaire. C'est quelqu'un qui surfe sur une vague. Et c'est un peu gênant pour moi quand t'es un programmateur, parce que tu dois être à l'origine d'un
renouveau. Oui, mais j'ai l'impression que c'est ce que cherchent les chaînes, hein, de toute façon.
Oui, c'est l'impression
que c'est.
Mais le point fort de Kevin Reilly, c'est d'avoir redonné une nouvelle identité à NBC.
On est d'accord.
Et que ces séries, elles ressemblent à aucune de ce qu'il y a ailleurs.
Mais c'est difficile à vendre. L'innovation est difficile à vendre quand t'as des actionnaires derrière qui demandent des audiences.
En ce moment, parce que à la fin des années 90, NBC faisait des audiences faramineuses avec des séries assez novatrices. The West Wing qui expose le DMAT, on se dit il y a un souci quand même. Mais,
c'est peut-être une nouvelle époque.
Ouais. Quand The West Wing est arrivé, c'était là quand même la fin d'NBC. The West Wing, c'est le dernier grand drama d'NBC.
Ouais. C'est le dernier, après, c'est moi, dernier succès de NBC.
Moi, je vois pas de série sur la fin de Jeff Zucker qui.
C'est vrai, ouais,
il a vraiment, c'est NBC a vraiment surfé sur la vague de Friends et du succès de Friends et de Ed Frazier. Et a vendu Will and Grace comme une excellente grande sitcom qui arrive à sa fin.
Ah, puis c'est là où ils ont développé Law and Order où c'était diffusé 15 fois par semaine. Voilà. Ça faisait de l'audience. Mais. On va voir ce qui va se passer sur ABC. Il y a un petit peu de changement, en tout cas dans Grey's Anatomy, puisque le pauvre Isaiah Washington s'est fait claquer la porte au nez.
Oh, on est vraiment très très content.
On est content, on n'est pas content, on s'en fout de savoir ce qu'il y a derrière les coulisses des shows ou pas. Est-ce que ça vous avait gêné dans la vision de Grey's Anatomy de savoir que Isaiah Washington était sûrement un gros con?
Oui, moi ça m'a gêné. Ouais. À chaque fois que je le voyais dans une scène avec ce pauvre George, je plaignais George de tout mon cœur. Et
moi ça m'a énervé que ça m'ait gêné.
Ah oui. Parce oui, non, mais idéalement, on a.
Enfin, c'est comme les gens qu'on commence à juger avec Baldwin sur le fait qu'il ait laissé un message sur le répondeur de sa femme
à ses
obligeants sur sa fille. Que ce soit un mauvais père ou un bon père, on s'en fout.
On s'en fout si c'est un bon acteur.
Maintenant, ce qui est assez différent, c'est que Isaiah Washington a choisi de rendre ça public aux Golden Globes. À l'origine, certes, l'altercation était privée.
Il y avait des fortes rumeurs, mais on n'était pas sûr de qui ça concernait. Voilà.
Le fait qu'il ressorte ça aux Golden Globes, c'était lui qui l'a cherché, c'est lui qui a cherché à le remettre au bout du jour. Donc là, c'était impossible de nier que c'était un.
Il a très mal géré.
Un canard homophobe.
Oui, non, mais il a très mal géré toute l'histoire.
Bah surtout que là il en ressort pas grandi quand il dit que en gros il s'est juste excusé pour garder son job, ça en dit long sur le personnage.
Ouais.
Attends, limite enfin moi personnellement je m'en fous, j'aime pas la série, mais je sais que si Alec Baldwin avait été viré de 30 Rock, ouais ça m'aurait énervé.
La situation était complètement différente parce qu'Alec Baldwin, ce qui ressort pour les gens qui ont un cerveau de cette histoire, c'est que Kim Basinger est vraiment une connasse.
Elle règle son
divorce avec son mari de façon publique en utilisant sa fille. C'est quand même relativement moyen.
Mais si on utilise ça comme excuse, le fait qu'il soit un mauvais père pour.
Oui, pour le renvoyer,
tu peux le juger en disant que oui, c'est. Non, enfin, pour moi, ça m'a gêné.
Non, mais il faut pas. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se dire.
Arrêtons l'hypocrisie. Il y
en a partout. Et il y en a dans tous les castings et dans tous les pools de scénaristes à Hollywood, c'est certain. Donc arrêtons l'hypocrisie et contentons-nous d'apprécier ou non une série.
Voilà.
Et ses acteurs.
Alors, les fans de Jericho vont pouvoir continuer à apprécier leur série puisque. De façon très surprenante, inattendue, incroyable, Jericho a été, après avoir été annulée, en tout cas après qu'on n'ait pas parlé d'elle aux upfronts de CBS, puisque la série n'était pas présente sur la grille de programmation de la chaîne qui fait le plus d'audience aux États-Unis au mois de mai. Après une campagne apparemment magnifiquement orchestrée par les fans, puisqu'elle a été médiatisée, elle aurait attiré l'attention des programmateurs de CBS qui aurait ressuscité la série, renouvelé les contrats de toute la production et de tout le casting, et qui s'est engagé à tourner 7 nouveaux épisodes de Jericho, qui seraient diffusés entre novembre et mai, avec comme consigne pour les fans, vous êtes gentils, vous mettez à regarder, puisque là, on fait un effort.
On n'est pas méchants.
On a ressuscité votre série. Alors, est-ce que c'est vraiment la force des fans qui a ressuscité Jericho, ou est-ce que c'est plutôt un extraordinaire coup de pub de CBS?
Ça paraissait assez évident. Surtout au moment où tout ce qu'on avait comme info, c'était que il n'y a pas d'info, que tout le monde se taisait, que les acteurs ne parlaient pas, les producteurs ne parlaient pas, le créateur ne parlait pas.
Et que la chaîne a donné la pomme d'or l'année prochaine de revitaliser son audience, de la rajeunir. Annuler Jericho, la seule série plus ou moins jeune de la chaîne, ça paraissait un peu. Un peu tiré par les cheveux de Kojak.
Un petit peu, oui.
Donc le renouvellement de dernière minute de Jericho.
C'est du pipeau. Ouais. Non, mais c'est un coup de pub, non, mais je veux dire, après, ils ont raison.
Oh non, mais bien sûr, les fans.
Voilà, ils en parlent, ça fait parler de la série.
Mais ce qui est marrant, c'est que CBS se donne la possibilité de. Certes, là, c'est juste pour renouveler pour cet épisode, mais le plan, d'après Skittle Rich, c'est de faire 13 épisodes pour une saison 2, pour ensuite renchaîner sur une saison 3. Donc, ouais, ils se donnent la possibilité aussi de la renouveler pour plus longtemps.
Mmh. Est-ce que les conséquences, par contre, d'un point de vue créatif, vont pas être. Finalement négatif pour les autres séries, puisque Jericho, qui faisait pas des bonnes audiences sur la fin, se termine par une espèce d'énorme cliffhanger. Cet énorme cliffhanger aurait, selon les producteurs, il a été décidé, puisque si jamais c'était annulé, peut-être qu'il y aurait une campagne de fans lancée derrière. Est-ce que c'est pas un signe maintenant que CBS a fait le malin en disant ouais, s'il y a un cliffhanger et que les fans s'y mettent est-ce que c'est pas un signe envers les producteurs en leur disant ne terminez jamais vos séries si vous faites peu d'audience, puisqu'il y a une infime chance que votre série soit renouvelée. Et est-ce qu'on va pas se retrouver, c'est déjà un peu beaucoup le cas, mais est-ce qu'on va pas avoir encore et encore un maximum de cliffhangers à la con à la fin de séries qui ne seront pas renouvelées?
Moi je pense pas, parce que Rob Thomas avait bien expliqué qu'il ne rendrait pas facile l'annulation de Véronica Mars et ferait tout pour avoir une fin ouverte, même si ça savait qu'il y a une grande chance que ce soit pas renouvelé.
Est-ce que c'est pas après, vraiment le mépris du téléspectateur, ce genre de choses? Parce que ça veut dire quoi, ça? On va faire pression sur les financiers avec une décision créative, c'est un peu stupide. Ouais. Qui est-ce qui va être floué dans l'histoire? C'est les admirateurs de la série, puisque fondamentalement, les gars qui détiennent CBS ou ce genre de choses, de savoir que Véronica Mars va pas être finie ou pas, pour prendre leur décision du renouvellement ou pas, vraiment ils s'en foutent.
Ouais. Pour moi, honnêtement, c'est pas un truc qui me dérange. Une fin de série, c'est vraiment dur à maîtriser, c'est vraiment dur à avoir une fin de série assez satisfaisante. Je me dis que la fin d'Angé à 15 ans est très bien comme elle est. C'est une fin ouverte, c'est une fin qui frustre un peu. Mais ça rajoute un peu du côté. Moi j'aime cette fin de série assez abrupte. J'ai pas besoin vraiment d'avoir une
façon de clôturer. Je trouve ça assez désagréable d'une façon générale.
Mais pour moi, un season finale doit clôturer des intrigues de saison. Donc oui. Si ta saison est forte, ton season finale doit pouvoir fonctionner en tant que série finale. Si à la fin il y a un cliffhanger.
Bah, ben, je repense à Carnivale, la fin de la saison 2 résolvait les intrigues de la saison, mais ouvrait d'autres questions quand même pour la suite. Et comme c'est une série à mythologie, on avait encore plein de réponses à obtenir. Il se trouve que la série a été annulée à la fin de saison 2 avec le prétexte que la série avait atteint... sa fin naturelle d'après HBO, ce qui était d'une hypocrisie totale. Donc quand je repense à ça, je me dis que non, effectivement, on peut ne pas finir sur un cliffhanger, mais même sans finir sur un cliffhanger, il y a toujours des questions qui restent ouvertes. C'est difficile de vraiment clôturer une saison et a posteriori une série quand on ne sait même pas si on aura une saison supplémentaire pour la terminer. Donc voilà.
Allez, donc cette saison 2006-2007 américaine officielle est terminée, mais les écrans américains ne montrent pas la mire actuellement. Il y a toute la programmation de l'été, et puis il y aura la programmation de la rentrée l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que vous allez regarder cet été, et qu'est-ce que vous attendez commençons d'abord par cet été, on verra si on a le temps de parler des 3 ou 4 nouvelles séries qui nous donnent un petit peu envie. Cet été, vous allez regarder quelque chose, vous allez commencer à regarder quelque chose, vous avez envie de regarder quelque chose un jour?
Ouais, moi j'ai recommencé à regarder Big Love, qui a commencé la semaine dernière. Sur HBO, avec un très très bon season première de saison 2, très bien. J'ai hâte de voir la suite. C'est pas ma série préférée, c'est une série sympathique. Qui est plutôt sympa, voilà, sympathique, hein. Donc on n'aurait pas bien compris. Et j'ai regardé John from Cincinnati, la nouvelle série sur HBO, donc, David Milch, créateur de Deadwood. Et j'étais un peu perplexe. ma curiosité
reste titillé ou
voilà.
Pas
voilà, oui, non, non, je regarderai la suite. J'ai pas vraiment compris exactement où il voulait en venir. Je pense qu'il aurait fallu que je fume une grosse douille avant de regarder l'épisode. néanmoins, on sent la patte de David Mitch. Les dialogues sont sublimes. Enfin, c'est des dialogues qui sont tellement différents de ce qu'on peut entendre à l'heure actuelle que c'est un plaisir de les entendre. Les acteurs, il y a Ed O'Neill de Marié deux enfants qui est absolument fabuleux. On voit assez peu, mais les scènes où il est sont mémorables. Après,
Bruce
je.
Greenwood.
Pardon ?
Et Bruce Greenwood aussi.
Bruce Greenwood qui joue.
Powerman. Je ne l'aime pas.
J'ai pas vu ça. Très bien.
Une espèce de truc à la X-Files à l'époque des X-Files.
Ah, ça me gêne pas à regarder X-Files. Donc, Mais donc, c'est une série qui laisse perplexe, oui. Après, on verra où ça mène. C'est un peu la patte de HBO aussi, hein, d'avoir des séries premières qui sont un gros « what the fuck ?» On se demande vraiment ce que c'est comme série, de quoi ça parle, où ça veut en venir. Donc j'attends, de toute façon il faut toujours donner une chance à une série HBO, il faut lui laisser le temps de s'installer. Enfin, quand je dis ça, je ne parle pas des comédies, hein, bien sûr, parce que j'ai eu l'occasion de voir Flight of the Conchords, donc, qui est une nouvelle comédie sur HBO, puisque le premier épisode est disponible sur MySpace. Et au bout de 10 minutes, j'ai dû arrêter parce que j'avais envie de jeter des trucs à mon ordinateur, tellement c'était insupportable.
Il ne faut pas abîmer un Mac.
Non, il ne faut pas. Donc voilà, on peut donner une chance au drama de HBO, mais pas aux comédies. Hein. Sauf The Comeback, voilà.
Mm. Dorem, tu vas regarder quelque chose cet été? Tu vas pas regarder une série de Mark Burnett qui pourrait se passer sur un bateau de pirates?
Chaque année, j'ai mon émission de télé-réalité un peu bizarre. L'année dernière, c'était Treasure Hunter, ce qui m'a plu.
Bizarre, non, non, c'est pas bizarre, c'est juste maintenant, nul.
Maintenant, Pirate Master, qui me traumatise. Et bah ouais, j'aime bien. Je sais que c'est mauvais, mais j'aime bien. J'aime le côté stratégique de... Oui, il y a un côté stratégique.
Non, mais
est-ce que tu peux résumer 2-3 petites secondes pour les gens qui ne connaîtraient pas, et même pour moi qui ne suis pas encore mis, malgré toute mon admiration.
En gros, c'est une dizaine d'Américains qui sont sur un bateau, qui font semblant d'être pirates.
Qui sont des acteurs hein, dans la vraie vie, donc.
Ouais. Dedans, vous avez un stripteaser slash scientifique, et c'est pas une blague.
Non.
C'est son descriptif, il est Chip and Dale scientifique.
Oui.
Et donc,
il y a toute une série qui a été faite là-dessus, sur une série de scientifiques. Ça s'appelle comment le truc à Las Vegas sur CBS? Mais oui, dans CSI, Marc.
Ah, Marchand, c'est vrai. C'est une stripteaseuse scientifique.
Sympa, j'ai fait un bon four avec cette blague.
Sympa. Bah oui, mais on regarde pas, t'es con aussi.
En gros, dans le premier épisode, les pirates ont une mission. Ils sont divisés de façon aléatoire en deux équipes et. Les gagnants gagnent une partie d'un trésor. En fait, ils ont un grand coffre avec une dizaine de clés. Et chaque semaine, ils se partageront l'argent qu'ils gagneront. Et à la fin au milieu du premier épisode, l'équipe gagnante doit se partager le butin. Et avant de se partager le butin, ils doivent nommer un capitaine.
Voilà.
Et ce capitaine, sans qu'il soit au courant, prend la moitié du butin. Ce capitaine doit nommer ensuite deux lieutenants. Ces deux lieutenants se partagent une des deux moitiés du butin, et le reste de l'équipe se partage les trois deniers qui restent. Et la particularité de Pirate Master, c'est qu'à la fin de chaque épisode, l'élimination est un peu différente que dans Survivor. Le capitaine nomine trois nominés,
ouais.
Et l'équipe doit soit voter pour l'un d'entre eux, soit organiser une mutinerie, et si toutes les personnes votent contre le capitaine est...
jeter la faute au requin. Ah non, non. Ça aurait été bien pourtant.
Et du coup, il y a un petit côté stratégique, parce que les équipes ne sont pas les mêmes toutes les semaines. Le capitaine peut choisir de redistribuer de l'argent.
C'est dommage que ce soit que de l'audio, mais il faudrait voir la tête de Fertis. Il n'a pas l'air très très convaincu.
Non, c'est assez étrange. C'est vraiment pas très bon. C'est du niveau de Treasure Hunters.
Ah oui, oui, oui.
Mais,
dire, oui.
Alors mais sinon, je vais ressortir mes DVD de Frasier. Ouais. La fin de Soprano m'a donné envie de regarder Six Feet Under.
Ouais,
ah
ouais, c'est
je
cool
regarder.
Ça.
Je regarde Freaks and Geeks, donc j'ai 3 mois pour tenir, ça va être bien.
Mais malgré tout, il y a quand même un programme phare cet été.
Ah oui.
Non, c'est pas Big Brother, on en parlera juste après, c'est quand même la nouvelle, enfin non, c'est notre... le spin-off de d'American Idol.
Ouais, c'est notre nouvelle émission de reality TV préférée.
À vous.
À nous.
Mais c'est que celle-là est vraiment, vraiment bien, enfin, c'est pas un guilty pleasure, c'est juste formidable, c'est à la recherche du nouveau meilleur danseur américain.
C'est Think You Can Dance.
Donc c'est comme ça qu'on a aimé American Idol, il y a 3 juges. Il y a eu des émissions d'audition, il y a eu une semaine à Las Vegas, et là ils ont déterminé un top 20. Et là, chaque semaine, on voit des couples de candidats qui ont des numéros de danse imposés, et ils dansent trop bien.
C'est trop fort.
Et là encore, on est dans la réactivité positive, parce que dans les émissions d'audition, en général, American Idol, on se tape 80% de boulets, de gens qui ne savent pas chanter. Et puis on voit Simon Cowell qui se fout de leur gueule.
Ouais, c'est très
bien. Ok, ça va 5 minutes. Là, en fait, il y a une espèce de quota obligé. On voit 3 bonhommes qui dansent mal, ils sont cassés. Mais c'est très, 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 très faible en portion d'antenne. Et finalement, on voit quasiment que des gens qui savent très très bien danser, qui ont des vraies personnalités. Mmh. Enfin, c'est pas l'école des fans non plus, hein, où tout est super. Et puis en plus, ils n'utilisent pas trop les histoires un peu tristes des candidats. Enfin, il y avait dans la série des auditions une fille qui avait perdu un bras dans un accident de voiture. Donc elle avait un bras artificiel, mais ça se voyait pas. Enfin, elle dansait vraiment super bien. Mais avec son bras artificiel, elle aurait été super handicapée dans le top 20. Alors peut-être que justement, avec le public, elle aurait été loin, loin dans la compétition. Et ben, curieusement, et plutôt positivement, les producteurs ont choisi de ne pas la sélectionner. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien.
Il faut aimer la danse, il faut aimer voir les gens danser. Voilà. Moi, j'adore ça, moi, le ballroom dancing.
Donc c'est pas comme Project Runway, parce que Project Runway on peut se foutre de la couture et aimer quand même l'émission.
Disons qu'il y a, quand même un panel de danse
il y a de tout, hein.
Assez grand, donc ça va du breakdance au tango, hein. Ils font un peu de tout en fait, chaque semaine apparemment ils ont des numéros imposés, donc t'as du disco, ouais, t'as du tango, t'as de la valse, t'as du break, t'as de la danse contemporaine. Donc selon tes goûts et selon ce que tu aimes ou pas dans la danse, tu peux quand même t'amuser à juger, à dire « Ah non, ça je trouve ça vraiment trop laid » ou « Ah non, ils sont trop beaux quand ils valsent, on dirait la princesse Sissi !» Mais non, c'est vraiment à voir, c'est une gentille émission réactive. Hein.
Ouais, c'est plutôt... Ouais,
et puis les juges sont pas là pour casser non plus, ils reconnaissent les efforts, ils reconnaissent les talents...
Et puis là, sur les 20 qu'ils ont choisis, il n'y a pas une tâche. C'est pas comme cette année avec Sanjaya dans American Idol ou dans des compétitions où justement on a des tâches mais qui sont marrantes. Là, ils sont vraiment tous super forts.
Oui, c'est tous des professionnels. Enfin, après, moi, j'y connais rien en danse. Hein, donc, c'est sûr que le côté technique, moi, quand ils font des bons et tout, quand ils font des grands écarts, ça m'épate, hein, évidemment. Donc, c'est assez limité à ce niveau-là. Mais non, globalement, ils ont quand même un super niveau, ça se voit.
Donc voilà, le conseil de ce podcast, c'est finalement à la télé, il n'y a que la Real TV qui compte. On verra si les séries télé tiennent la route à la rentrée.
Ouais.
Et puis c'est sur cette note qu'on va vous quitter. Vous souhaitez un joyeux été.
Oui, bon été.
Bon été.
Amusez-vous bien.
Au revoir.